VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. L'opposant congolais Moïse Katumbi est convoqué depuis ce matin devant la justice sur des soupçons de recrutement de mercenaires. Lionel Gaïma.
Moïse Katumbi, richissime homme d'affaires de 51 ans et ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, est convoqué à 10 heures locales devant le parquet général de Lubumbashi, capitale du Katanga, pour y être entendu. Le 24 avril, le gouvernement congolais avait annoncé avoir arrêté 4 gardes du corps de Katumbi, dont un Américain, lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Et mercredi dernier, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains liés, selon lui, à Katumbi. Ce dernier avait qualifié mercredi de mensonge grotesque ses allégations et de basse manœuvre du pouvoir pour lui nuire à l'approche des élections. Cette convocation intervient dans un contexte de climat politique très tendu en RDC depuis des mois en raison de l'incertitude liée au très probable report de l'élection présidentielle censée avoir lieu fin novembre.
Moïse Katumbi s'est effectivement présenté devant le parquet ce matin à Lubumbashi. Auparavant, l'ancien gouverneur du Katanga avait rejeté ses accusations. On l'écoute.
Moïse Katumbi, sa lutte est pacifique et la démocratie, c'est savoir dire oui ou non. Et j'ai dit non au glissement dans notre pays. Ils ont cité les États-Unis et l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si on recrute des mercenaires à Washington parce que la société que je suis allé consulter pour ma sécurité personnelle à Washington, c'est une société qui existe. Et en Afrique du Sud, je n'ai jamais demandé ma sécurité. Dans un pays sérieux, le directeur de renseignement devrait normalement démissionner. Malheureusement, notre justice n'est pas indépendante. Donc j'invite les États-Unis et l'Afrique du Sud qui puissent aussi participer à cette enquête internationale.
L'opposant congolais Moïse Katumbi, reprise ce lundi du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien président ivoirien et celui qui fut son ministre de la Jeunesse sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010. Les deux hommes ont plaidé non coupables à l'ouverture du procès le 28 janvier dernier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La capitale sénégalaise accueille depuis le 3 mai la 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. L'innovation cette année, c'est le MADAC, le marché de l'art africain de Dakar. Une façon pour les organisateurs de revaloriser les artistes du continent et leurs œuvres. Sokhna Nata Mbaï a fait un tour.
Dans le hall du Grand Théâtre National de Dakar, tableaux, statuettes et autres œuvres d'art trônent par-ci et par-là. Des couleurs et des formes qui témoignent de l'évolution de l'art africain. Kalidou Kassé, artiste plasticien, peintre et sculpteur.
Quand on voit aujourd'hui des sculptures que nous avons présentées ici qui datent de 3000 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, ce n'est pas des blagues, c'est du sérieux. Nous avons ici des œuvres qui coûtent 50 millions, qui coûtent 75 millions.
Pour cette 12e édition de la Biennale de l'art africain, l'artiste en collaboration avec d'autres hommes de culture a pris une initiative.
Le marché de l'art africain de Dakar, intitulé le MADAC, en est à sa première édition et pratiquement on peut dire que c'est l'innovation de la Biennale. Parce que depuis 12 ans, on fait la même chose. C'est des tableaux qui sont présentés, c'est des sculptures, c'est des rencontres scientifiques. Mais après mes 12 ans, je pense quand même qu'il fallait créer autre chose.
Les artistes pourront ainsi exposer leurs œuvres et attirer les férus d'art. La créativité africaine a toujours inspiré le monde extérieur et cela doit être encore plus profitable aux artistes africains. Sanou Diawara, artiste peintre.
Moi-même, j'ai amené aussi un tableau. Et chaque artiste aussi a amené aussi un tableau, suivant des thématiques, mais qui ont trait un peu au concept qu'on a fait.
C'est-à-dire?
Le concept, c'est un peu, par exemple, l'art moderne et l'art antique. Essayer de voir un peu, par exemple, le trait d'union entre ces arts. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'artistes de renommée mondiale. La base de leur renommée, c'était pratiquement l'art africain.
Ce jeune homme prend une photo devant des carrés en verre, égayés par différentes couleurs. Comme on parle du marché de l'art africain, le prix figure forcément à côté. Le jeune, curieux, apprécie la beauté du travail, mais sans plus.
1 500 000 comme ça. Hein? En tout cas, c'est joli. Mais d'habitude, les Sénégalais n'ont pas cette culture. L'art-là, ça intéresse plus que les étrangers, que les Sénégalais. Maintenant, il y a un changement parce que petit à petit, les gens commencent à s'imprégner de l'art, les acheter, de les mettre dans leur salon ou bien dans leur chambre.
Les activités du Dakar vont se poursuivre jusqu'au 2 juin dans certains endroits de la capitale. Expositions, projections de films, panels, entre autres. Un grand événement pour le monde de l'art africain. Sokhna Nata Mbaï, Dakar, VOA Afrique.
Au moins 5 personnes, 3 policiers et 2 civils ont été tués aujourd'hui dans la capitale somalienne Mogadiscio dans une attaque à la voiture piégée menée par les militants islamistes Shebab contre le quartier général de la police des transports. Les deux assaillants, le conducteur de la voiture et un homme armé qui a tenté de pénétrer dans le poste de police, ont également été tués. L'attaque a été revendiquée par les insurgés Shebab affiliés à Al-Qaïda. Reprise partielle de la présidentielle mercredi aux Comores, le scrutin sera repris dans des bureaux où le second tour avait été perturbé, une répétition susceptible de changer les résultats très serrés du vote remporté par l'ex-putschiste Azali Assoumani. Seuls 6 305 électeurs, soit 2% des quelque 300 000 que compte cet archipel de l'océan Indien, sont appelés aux urnes mercredi dans 13 bureaux de vote, mais ils sont en mesure de faire basculer les résultats de la présidentielle. La France va se doter d'ici la fin 2017 d'un centre de réinsertion dans chaque région pour personnes radicalisées ou susceptibles de basculer dans le djihadisme, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre français Manuel Valls. Ce nouveau plan de lutte contre le terrorisme, doté d'une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires d'ici 2018, vise à doubler en 2 ans les capacités de prise en charge des jeunes actifs dans les réseaux djihadistes ou susceptibles de joindre leur rang. Ouverture ce lundi à Bruxelles, en Belgique, du procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers, dans l'est de la Belgique. 4 des 16 prévenus sont actuellement incarcérés, dont Marwan El Bali, âgé de 26 ans. 9 prévenus en fuite ne seront pas présents aux audiences qui se tiendront dans un palais de justice de Bruxelles placé sous haute sécurité après les attaques revendiquées par le groupe État islamique qui ont fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge le 22 mars dernier.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Brésil, le Sénat examine mercredi la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Un vote à la majorité simple des sénateurs, 41 sur 81, prévu jeudi, suffira pour prononcer la mise en accusation de la présidente. Si les sénateurs votaient contre, la procédure serait enterrée ipso facto. Dans le cas contraire, Mme Rousseff sera alors immédiatement écartée du pouvoir pour un maximum de 180 jours en attendant le verdict final des sénateurs. L'opposition accuse Dilma Rousseff d'avoir sciemment maquillé les comptes publics. D'abord en 2014, en pleine campagne électorale présidentielle, pour minimiser l'impact des déficits publics et de la crise économique afin de favoriser sa réélection, puis au début de 2015. L'Iran a testé à la fin du mois d'avril un nouveau missile d'une portée de 2000 km après une série de tirs effectués en mars, a déclaré aujourd'hui le général Ali Abdouhali, le chef adjoint d'état-major des armées iraniennes, cité par l'un des sites d'information de la télévision d'État. Début mars, l'Iran avait procédé à plusieurs tirs de missiles guidés de courte, moyenne et longue portée de 300 à 2000 km en différents endroits du territoire iranien, la plupart à partir de bases souterraines. Le programme balistique de l'Iran est critiqué par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les chefs d'entreprise sud-coréens qui étaient présents à Kaesong, le complexe industriel intercoréen, désormais fermé, ont introduit un recours en justice lundi contre la décision du gouvernement sud-coréen de se retirer du projet. Le groupe d'hommes d'affaires représentant une centaine d'entreprises font valoir que la décision surprise prise par Séoul en février a violé leur droit constitutionnel à la propriété. Séoul avait riposté au 4e essai nucléaire nord-coréen et à un tir de fusée de Pyongyang en suspendant les opérations à Kaesong, qui était l'un des ultimes projets communs de coopération entre le Nord et le Sud. Et puis pour terminer, du football, du sport, la partie est définitivement perdue pour Michel Platini. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, a mis un coup d'arrêt brutal aujourd'hui à la carrière du patron de l'UEFA, dont la suspension de toute activité liée au football a été maintenue et seulement réduite de 6 à 4 ans. Conséquence immédiate de la décision prise par la plus haute juridiction sportive basée à Lausanne en Suisse, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France a annoncé dans un communiqué qu'il démissionnait de la présidence de l'UEFA pour poursuivre son combat devant les tribunaux suisses tout en dénonçant une profonde injustice. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.